son retrait plus tôt de la présidentielle. Voilà, il s'en parle. I have a dream. It's one small step for man,
une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
Bonsoir et bienvenue sur VOA Afrique. Nous émettons depuis Washington DC, la capitale américaine. Eric Manelakiza avec vos micros. Josèle Morissin assure la réalisation et la production. Nous sommes dans l'Amérique et vous, ce soir, nous nous penchons sur la décision surprenante de Joe Biden de se retirer de la course présidentielle américaine. Une annonce qui résonne bien au-delà des frontières des États-Unis. Nous explorons l'héritage de Biden et ce que son choix signifie pour la démocratie, en particulier face aux défis que connaissent les partis politiques en Afrique où la jeunesse et le renouvellement des dirigeants restent des questions cruciales. Nous allons également comparer les dynamiques politiques en Amérique et en Afrique, tout en réfléchissant aux leçons que ces événements nous offrent sur le renforcement des institutions démocratiques. Dans quelques instants, nos invités. Nous sommes en ligne avec l'analyste Ibrahima Khan de l'OSIWA, bureau Afrique de Open Society Institute à Dakar. Monsieur Khan, bonsoir.
Bonsoir, Eric.
Et bienvenue dans l'Amérique et vous.
Merci beaucoup, merci pour l'invitation.
Nous serons également en ligne avec Frédéric Bamvuginyumvira, ancien président du Burundi. On va l'avoir dans quelques instants. Nous serons également avec Jean-François Seznec, directeur de Lafayette Group, qui se trouve à Annapolis, dans l'État du Maryland. Nous allons la voir également dans un instant. On va commencer, Monsieur Khan, comment les changements politiques aux États-Unis, comme le retrait du président Biden, influence-t-il les politiques et perceptions en Afrique? D'abord, est-ce que c'est une décision qui vous a surpris?
Surpris, pas totalement, parce que le président avait commencé à subir beaucoup de pression. Et comme l'autre camp était vraiment en roue libre pour pratiquement gagner l'élection sans effort, il fallait bien une réaction de la part du Parti démocratique pour pouvoir, comment dirais-je encore, faire en sorte que cette question-là soit totalement réglée. Mais d'une autre manière, il se trouve que dans le contexte où nous sommes, c'est un contexte où tous les régimes politiques ont connu ce genre de situation. Tous les régimes politiques qui existent dans le monde. La Russie, vous savez, pratiquement du temps de l'URSS, presque tous les leaders mouraient au pouvoir. La Chine de Mao Zedong a vécu cette histoire. La France, vous avez vu la fin du régime de Mitterrand, qui a été une fin très douloureuse. Et en Afrique, bon, on en parle aussi.
La Corée
depuis,
du Nord.
Jomo Kenyatta, Abdulaziz Bouteflika, Paul Biya est encore à la tête du pays pour presque 30 et quelques années de pouvoir. Donc, vous voyez que cette question de l'âge des présidents dans les systèmes politiques actuels est une question importante qu'il faut résoudre. J'espère que les États-Unis ont donné un ton et que maintenant, à partir de l'exemple américain, il y a des mesures qui vont être prises de part et d'autre pour que la gestion d'un État ne soit pas une affaire de vieillards, que ce soit une affaire de personnes qui sont capables, qui ont de l'expérience certes, mais qui sont capables en corps et âme de prendre en charge les préoccupations des pays.
Oui, vous parlez de pression. Le Parti démocrate a notamment fait pression sur le président Biden. Comment vous évaluez, disons, le poids des partis politiques en Afrique, est-ce que un parti politique en Afrique peut demander à un président de partir? Nous l'avons déjà vu en Afrique du Sud seulement.
Alors, oui, il faut classifier les partis politiques en Afrique. Vous savez, dans les systèmes politiques que nous avons en Afrique sont des systèmes politiques qui, pendant le temps, ont évolué. Les partis politiques des années 60, qui étaient même des partis uniques ou des partis unifiés, étaient des partis très puissants, mais qui avaient à leur tête des gens aussi puissants, mais qui savaient écouter. L'ANC est une autre catégorie de partis qui ont pris les armes pour renverser un régime aussi impopulaire que le régime de l'apartheid et qui était organisé de manière à ce que l'institution en tant que parti pouvait avoir un impact sur le comportement du président, de celui qui est censé le représenter. Mais dans d'autres pays, surtout quand vous prenez l'Afrique noire francophone, à l'heure actuelle, les partis politiques, ce ne sont que des rampes de lancement pour un leader. On crée un parti politique pour arriver au pouvoir, et une fois qu'on a accédé au pouvoir, mais le parti devient une marionnette, devient un instrument entre les mains du président. Je pense que l'exemple que je peux vous citer, qui est le plus actuel, c'est l'exemple de l'APR au Sénégal. Macky Sall, quand il a quitté, en tout cas quand il a été renvoyé du parti démocratique sénégalais, il a créé l'APR, il a utilisé l'APR pour accéder au pouvoir, mais dès l'instant qu'il a perdu le pouvoir au Sénégal, vous voyez, ce parti APR est en complète déconfiture. Donc vous voyez que cette nature des partis politiques est aussi importante à prendre en considération, parce que cette nature-là peut aider à voir comment on gère la situation politique dans le pays et comment on gère la trajectoire, si je puis dire, des dirigeants des partis.
Nous sommes en ligne avec Jean-François Seznec, directeur de Lafayette. Seznec, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir.
Alors, la décision de Joe Biden de ne pas se représenter est-elle perçue comme un acte de renoncement ou de responsabilité politique aux États-Unis?
Je pense que c'est plutôt un acte de responsabilité politique, en fait, oui, parce que je pense qu'il était très clair qu'il allait perdre les élections et qu'en amenant quelqu'un d'un peu plus jeune, le Parti démocrate a une meilleure chance de garder sa position de contrôle, enfin du contrôle de l'exécutif, oui.
Et comparé au président précédent, comment le choix de Biden reflétait-il l'état actuel de la démocratie américaine?
Écoutez, beaucoup de gens ont peur qu'une présidence Trump pourrait annuler la démocratie. C'est un peu exagéré, mais il est certain qu'il y a des tendances antidémocratiques dans le Parti républicain en ce moment. Et effectivement, le renoncement de Biden donne beaucoup à penser à Trump. Et maintenant, c'est lui qui devient le leader sénile, si vous voulez, dans la course à la présidence. Et donc, effectivement, l'état de la démocratie pourrait être amélioré par ce changement.
Frédéric Mvuguinyo-Vida, ancien vice-président du Burundi, est avec nous en ligne. Frédéric, bonsoir, monsieur le président.
Bonsoir, bonsoir, Eric.
Et bienvenue dans l'Amérique, et vous?
Merci beaucoup.
Je signale que vous êtes en exil, vous n'êtes pas dans votre pays natal.
Je ne suis pas dans mon pays, je suis en Belgique.
Oui, et quelle est votre perspective sur la décision du président Biden de se retirer de la course présidentielle en raison de son âge et de la nécessité de nouvelles voies?
Bon, ce qu'il faut apprécier du président Joe Biden, c'est que quand même c'est une décision extraordinaire, parce qu'il est rare de voir le président qui puisse décider ainsi. J'imagine que si on avait un Trump à sa place, il n'accepterait pas de partir de son aise comme cela, comme l'autre l'a fait. Ce qui signifie, comme l'autre le disait, l'esprit de responsabilité de Joe Biden pour sauver, protéger la démocratie qui se voyait en danger.
Et selon vous, dans votre expérience, quelle est l'importance de la cohésion, disons, du parti dans la décision d'un leader de se retirer ou de continuer en fonction?
Eh bien, j'ai appris que il y aurait eu des pressions du côté du parti de démocrates en convaincant Joe Biden qu'il fallait absolument renoncer à cette responsabilité dès lors que il n'a pas réussi à équilibrer les propos de son challenger Trump. Et que par conséquent, il a accepté quand même de se dire, voilà, comme les gens me le disent, comme peut-être moi aussi je l'ai vu, donc autant prendre une décision importante pour la vie de mon pays.
Alors, vous êtes l'un des exemples de ce qui se passe par exemple sur le continent africain. Revenons sur les raisons de votre départ du pays. C'était lié à un président qui n'a pas voulu quitter le pouvoir après ses deux mandats.
Oui, bien sûr. Tout le monde l'a vu, tout le monde l'a vécu. À un moment donné, le président Nkurunziza, se croyant qu'il était soutenu par la police et l'armée et par son parti, il a cru qu'il allait forcer les Burundais à accepter son mandat. Mais bien sûr, les Burundais avaient déjà goûté à la démocratie et ils ont décidé, ainsi ils ont dit, on ne peut pas accepter une telle décision, nous allons dans la rue pour revendiquer nos droits. C'était pour la première fois au Burundi que des Burundais acceptent de se mettre ensemble et revendiquer leurs droits. Et je crois qu'il a compris à son dépens que la solution était absolument le choix du peuple.
Monsieur Kahn, vous avez établi tout à l'heure un lien entre les défis liés à la succession politique aux États-Unis et les dynamiques politiques en Afrique, notamment en ce qui concerne le renouvellement des élites politiques. Le chemin reste long.
Tout à fait. Extrêmement long et extrêmement périlleux, comme vous l'a dit tout à l'heure, Monsieur le Président. Mais dans cette dynamique, il y a quand même des constantes. Quand un peuple refuse qu'on lui impose quelque chose, le peuple va jusqu'au bout de sa démarche. Ce n'est pas seulement le Burundi qui a eu cette expérience. Le Sénégal a vécu cette expérience. La Guinée a vécu cette expérience. Donc, on peut multiplier les exemples. Mais ce qui est important, c'est que une fois que ce processus-là a abouti, il faut qu'on change les règles du jeu. Par exemple, aujourd'hui au Sénégal, il est vrai que théoriquement, un président de la République ne fera plus de deux mandats, mais je pense qu'il est important, en tirant les leçons de l'expérience que nous avons vécue et qui a failli vraiment précipiter le pays dans l'inconnu, qu'il faut qu'on retrouve, qu'on fasse un certain nombre d'ajustements dans les règles constitutionnelles et dans le fonctionnement des institutions. Je pense également que les institutions régionales comme la CEDEAO peuvent vraiment contribuer à vraiment renforcer ces mécanismes-là de sorte que personne n'aura l'ambition d'aller de faire deux ou trois mandats. Mais pour moi, ce que l'expérience américaine aussi révèle, c'est l'âge de nos dirigeants. L'âge de nos dirigeants, parce que on ne peut pas. Prenez le cas, dans tous les pays africains, les mandats sont de 5 ans. Si un président arrive au pouvoir à 70 ans ou à 75 ans, s'il veut faire deux mandats, il ira jusqu'à 85 ans. Tout le monde sait que humainement, à partir de 80 ans, moins de 80 ans, les facultés de la personne sont moins alertes qu'elles ne l'étaient quand il a 70 ans ou quand il a 55 ans ou 60 ans. Donc c'est important qu'on puisse au moins limiter l'âge des candidatures à 65 ans. Comme il y a un âge plancher dans presque toutes les constitutions qui est de 35 ans, il faut aller aussi dans un âge limite qui doit être plus de 65 ans. On dit, si vous avez 65 ans, vous ne pourrez plus vous présenter à l'élection présidentielle. Mais si vous en avez moins, oui, vous pourrez le faire. C'est en cela qu'on peut vraiment aider nos dirigeants à rester toujours alerte, à être capables de gérer les problèmes du pays. Mais c'est aussi une façon de faire en sorte que les générations se succèdent à la tête du pays. Biya est arrivé au pouvoir en 1982. Regardez combien de présidents de la République aux États-Unis ont rencontré Biya pendant toute la durée de sa présidence. Et on ne sait même pas encore jusqu'à quand il va rester au pouvoir, puisque on dit qu'il est peut-être candidat.
Il y a aussi la Guinée équatoriale ou d'autres pays.
Tout à fait, tout à fait. Et donc, c'est cette question de changement à la tête du pays, de donner aux jeunes la possibilité, eux aussi, d'offrir leur service à leur État, de gérer leur État. Mais je pense qu'il n'y a pas plus extraordinaire que ça. L'actuel président du Sénégal, peut-être il n'a pas toutes les compétences, peut-être il n'a pas l'expérience des autres, mais au moins il a l'humilité, au moins il a la volonté, et tout le monde sait qu'il donne une autre image de ce que doit être la politique. Et ça, c'est déjà important pour les populations. On ne peut pas avoir 90 ans et gérer une population qui a 75% à moins de 35 ans. On n'a pas les mêmes idées, on n'a pas les mêmes ambitions.
Nous vous écoutez donc l'Amérique et vous. Nous parlons de l'héritage de Biden. Nos invités, Jean-François Seznek, directeur de Lafayette Group, Ibrahim Akan, il est analyste, il travaille à l'OCIWA, bureau Afrique d'Open Society Institute, et Frédéric Bamvuginyu-Villa, ancien vice-président du Burundi. Jean-François Seznek, comment évaluez-vous l'héritage de Joe Biden en tant que président, notamment en matière de politique intérieure et extérieure? Quels sont les principaux accomplissements et défis de sa présidence qui marqueront son héritage? Monsieur Seznek?
Oui. Vous m'entendez. Là, il a fait de très bonnes choses pour la politique intérieure des États-Unis. Il a pu passer des lois qui aident beaucoup les gens, qui vont essayer d'améliorer les infrastructures, etc. Et du côté international, il a beaucoup supporté l'OTAN, ce qui a été une très bonne chose. Il a supporté l'Ukraine. À mon avis, il a fait des erreurs graves en supportant trop Netanyahou dans le conflit au Gaza, où là, il a perdu beaucoup de crédibilité. Mais quand même, il a été un très bon président jusqu'ici, et il aurait pu continuer s'il avait effectivement eu les capacités mentales de continuer, mais à son âge, comme il vient d'être dit, c'est très difficile de garder la force mentale et l'énergie nécessaire pour le travail du président américain, qui est un travail énorme et 24 heures sur 24.
Et compte tenu des défis que Biden a évoqués pour unir son parti, comment cela reflète-t-il la force et la cohésion des partis politiques aux États-Unis par rapport aux pays, disons, africains?
Ben, écoutez, je ne peux pas vraiment parler des partis africains parce que je n'ai pas la connaissance nécessaire, mais il est certain qu'il a réussi à ressouder un peu le parti démocrate qui commence à se diviser très sérieusement, et je pense que la nouvelle candidate, Kamala Harris, si elle nomme quelqu'un d'un peu conservateur comme son vice-président potentiel, je pense qu'effectivement, ils vont vraiment unir le Parti démocrate et une grande partie du pays qui serait contre Trump.
Monsieur Bamvuginyu-Villa, selon vous, quels sont les principaux obstacles à la formation de partis politiques forts et crédibles en Afrique, et comment cela compare-t-il avec la situation politique aux États-Unis?
Je crois, je vais partir de la déclaration du président Obama quand il a dit « Il ne faut pas des hommes forts,
dans la gestion des affaires publiques, mais il faut des institutions fortes. Voilà ce qui est important. C'est un principe de base. En réalité, dans nos pays, un parti politique vient et cherche à se renforcer autour des personnes, au lieu de se renforcer autour des institutions. Voilà ce qu'il y a comme problème dans nos sociétés. En fait, la tendance, c'est qu'un parti qui se renforce autour des hommes devienne pratiquement un parti à tendance de parti unique. C'est ce que nous sommes en train d'observer dans nos pays. Et alors que, justement, quand vous renforcez les institutions, ça veut dire que le pays fonctionne sur base des institutions au lieu de continuer à fonctionner sur base des personnalités. Il y a la culte des personnalités dans nos pays et ça devient un danger. Et ces personnalités viennent se greffer derrière des partis uniques. Et quand ces personnalités ne sont plus là, eh bien, c'est la fin de la paix, c'est la fin de l'ordre, parce que justement, ils tendent justement à renforcer ou à chercher la stabilité dans l'instabilité. Parce qu'un homme, c'est l'instabilité, mais les institutions, c'est la stabilité.
En quelques secondes, quel défi, M. Bamvuginyumvira, les partis politiques africains rencontrent-ils pour assurer des transitions de leadership fluides et comment la décision de Biden pourrait-elle être perçue comme un modèle ou un contraste?
En réalité, le Joe Biden devrait constituer une référence dans la gestion des affaires des États, surtout pour les partis politiques. Parce que Joe Biden a constaté que même s'il avait été apprécié par bon nombre de ses militants, eh bien, il a compris qu'il n'était plus capable de répondre aux préoccupations des États-Unis et surtout des militants démocrates. Maintenant, l'exemple qu'il devrait nous donner, c'est de dire, voilà, il ne faut pas compter sur des personnes. Il faut compter sur la situation, la population. La population devrait être un exemple, une référence, au lieu de compter sur ce que toi, tu penses toi-même. Mm-hmm. La tendance est que, en fait, nos dirigeants, ils ont des groupes d'intérêt qui tournent autour d'eux et qui essaient de les influencer pour qu'ils puissent garder les mêmes privilèges pour longtemps. Maintenant, il faut que nos hommes comprennent que leur longévité politique devrait dépendre de la volonté du peuple.
Jean-François Seznec, quels sont les avantages et les défis potentiels de promouvoir un leadership plus jeune dans les partis politiques aux États-Unis, inspiré par la récente décision de Biden?
Oui, il est certain que l'expérience de Biden est absolument incroyable. Il a tout vu, il a tout fait depuis 50 ans, plus que ça, enfin 70 ans même. Et il fait de la politique, donc il a une expérience, il connaît les gens. Mais d'un autre côté, il est face à face avec des problèmes énormes et des gens qui sont beaucoup plus rapides que lui. Et ça peut être un problème. Donc, à mon avis, la décision qu'il a prise est excellente et j'espère que ce sera un bon exemple pour tout le monde.
Ibrahim Akane, il nous reste 30 secondes. Quelles leçons les dirigeants et les systèmes politiques africains peuvent-ils tirer de cette transition volontaire de pouvoir?
Oui, c'est une bonne chose. Mais en même temps, je voudrais juste participer au débat que vous avez posé avec les autres interlocuteurs pour dire que de la même façon que Biden a posé un bon acte, de cette même façon, il faut aussi dire que le système politique américain ne peut pas constituer une référence. Parce que c'est un système politique qui est basé sur deux partis. Il n'y a pas d'autres idées qui peuvent fleurir aux États-Unis. Il n'y a pas d'autres partis politiques qui peuvent émerger. Et toutes les institutions du pays sont organisées autour de ce système bipartisan. Alors que dans les autres pays, surtout en Afrique,
Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ne pensent pas de la même façon.
Merci. Et donc, merci beaucoup, Ibrahima Khan de l'OCIWA, Bureau Afrique d'Open Society Institute, Jean-François Seznec, directeur de la Fayette Group, Frédéric Evambouguignon-Villa, ancien vice-président du Burundi, ont parlé de l'héritage de Biden dans l'Amérique. Et vous, Eric Manilakiza, vous souhaite une excellente soirée. Joselle Morissin a assuré la réalisation. À la